France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison d'été des grands accords internationaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet revenu en force dans l'actualité, les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. En 1968, sous De Gaulle, 6 ans après la fin de la guerre et les accords d'Évian, un accord est signé entre Paris et Alger pour régir la circulation, le séjour et le travail des Algériens en France, qui relèveront d'un régime spécifique. À l'époque, la France avait besoin de main-d'œuvre, elle se sentait aussi redevable envers l'Algérie. Mais aujourd'hui, alors que la tension entre les deux pays ne fait que croître, depuis qu'Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental, ces accords de 68 sont dénoncés par certains, notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui les juge trop favorables à l'Algérie. Ils sont l'un des leviers qui pourraient un jour être utilisés pour faire pression sur le gouvernement algérien qui refuse la réadmission de ses concitoyens faisant l'objet en France d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Les OQTF ne sont qu'une des facettes, avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, de l'état d'une relation qui s'est dégradée au point d'être aujourd'hui au bord de la rupture. Les contacts politiques entre les deux pays ont quasiment été suspendus et les relations économiques et commerciales sont au plus bas. Quant à l'ambassadeur de France à Alger, il a été rappelé pour consultation depuis plusieurs mois. En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron avait fait du dossier algérien l'un de ses grands chantiers diplomatiques. Il n'a cessé de tendre la main à Alger pour forcer une réconciliation mémorielle qui, espérait-il, ouvrirait une voie en effaçant les taches du passé. Mais il n'a rien obtenu en échange de la part d'un pouvoir algérien qui tire toujours sa légitimité de la guerre d'indépendance et de l'exacerbation du sentiment anti-français. Le président français a-t-il été trop naïf ? Existe-t-il un autre moyen de rapprocher les mémoires ? Le temps est-il venu de durcir le ton avec Alger, notamment en remettant en cause les accords de 1968 ? C'est de ce sujet à la fois sensible et complexe que nous allons discuter aujourd'hui avec Xavier Driancourt, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été 2 fois ambassadeur à Alger, la première fois de 2008 à 2012 et la deuxième fois de 2017 à 2020. Et vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire un essai engagé sur la relation franco-algérienne, le double aveuglement. Et Thierry Oberlé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien journaliste au Figaro et spécialiste du Maghreb. Vous connaissez très bien l'Algérie et la relation franco-algérienne. Je vous souhaite bienvenue à tous les deux. Alors, on va commencer par s'interroger un petit peu sur ces fameux accords de 68. Xavier Driancourt, que prévoyait-il exactement ? Quelle est leur origine ? En fait, à quoi devait-il servir ?
Oui. Alors, je vous rappelle que je suis aussi l'auteur de la note que à la Fondapol publiée en 2023 sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Et c'est à la suite de cette note de la Fondapol que toute la classe politique, il faut le reconnaître, ou une bonne partie d'entre elles, à commencer par Édouard Philippe, la semaine qui a suivi, a demandé la dénonciation de cet accord du 27 décembre 68. Alors cet accord, il est important pour 3 raisons, je dirais. Première raison, parce que il s'inscrit dans la filiation des accords d'Évian. Les accords d'Évian en 62 prévoyaient la liberté de circulation entre la France et l'Algérie parce que, au moment de la négociation, nous pensions du côté français que les pieds noirs resteraient en Algérie et donc il fallait prévoir pour eux qu'ils puissent rentrer en France sans entrave particulière. Et puis, en juillet 62, il s'est passé ce que l'on sait, les pieds noirs sont rentrés massivement en France et à partir de ce moment-là, la liberté de circulation n'a joué que pour les Algériens. Donc en 68, on négocie un accord avec Alger qui d'une part revient ou abroge la libre circulation établi en 62, et d'autre part, leur donne en compensation des avantages particuliers. Et la deuxième raison, c'est parce que les accords internationaux dans l'ordre juridique interne français l'emportent, ont une valeur supérieure aux lois, et donc les lois sur l'immigration ne concernent pas les Algériens qui sont régis exclusivement par l'accord de 1968. Et enfin, la troisième raison de l'importance de cet accord, mais on y reviendra sans doute, c'est les dérogations qu'il prévoit justement pour les Algériens.
Alors, on va tout de suite écouter un son. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'était le 27 novembre 2024. Il parlait justement des accords franco-algériens de 1968. C'est une source Public Sénat.
On voit bien que bien avant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un processus s'est engagé, très agressif. Bien. J'en dirai pas plus puisque ça va au-delà. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai à connaître un certain nombre d'éléments, d'événements qui me laissent à penser que on ne peut pas tout s'autoriser. Une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser en matière de violation de notre souveraineté. Donc, les relations étant ce qu'elles sont, évidemment, à titre personnel, je serais favorable, bien sûr, à cette dénonciation. Je pense que c'est un droit qui est exorbitant et que plus rien ne justifie ce droit-là et ces dérogations. Rien. Je le pense vraiment. L'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et des années, et c'est tant mieux. Et peut-être que le service qu'on peut mutuellement se rendre est de s'oublier l'un l'autre un peu, notamment en matière d'accords migratoires.
Alors pendant longtemps, en fait, Thierry Oberlé, ce régime spécial qui était accordé aux Algériens, dont l'entrée sur le territoire français était facilitée, n'avait dérangé personne. Il était justifié par l'histoire, en quelque sorte. Et aujourd'hui, certains veulent les dénoncer, ces accords. Pourquoi ?
Oui, ce qui est important au départ, c'est que ces accords, ils sont signés aussi parce que historiquement, l'Algérie est un ancien département français, donc ils accordent la libre circulation totale, alors que des accords sont passés aussi avec les pays voisins, avec la Tunisie dans le cadre de la décolonisation et le Maroc. L'Algérie, donc, on décide que c'est un cas à part, et ils ont des dérogations que n'ont pas les autres. Et ça arrange tout le monde, parce que d'un côté, la France a besoin de main-d'œuvre, l'Algérie a besoin de rentrer des devises. Et en fait, on est en 1968. Aujourd'hui, on est en 2025, et le monde a changé. Et donc, ces accords n'ont plus de raison d'être en eux-mêmes. Ils doivent obligatoirement évoluer, parce que la situation est totalement différente. Les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie ne sont plus les mêmes. Et c'est la raison principale pourquoi il faut les revoir, au-delà de toutes les polémiques et de toutes les passions que ça peut entourer, parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés à la situation.
C'est votre opinion aussi,
Xavier Rioncourt ? Oui, tout à fait. Je crois que la question migratoire, comme on dit, ne se posait pas de la même manière en 1968. Elle n'existait pas, en fait, comme elle se pose aujourd'hui. Donc cet accord est une aberration dans l'ordre interne et dans la relation avec l'Algérie. Et d'ailleurs, l'Algérie tient un discours parfaitement contradictoire sur cet accord, parce que tantôt le président Tebboune dit « Oh, mais ces accords sont dépassés, ils ne servent à rien, c'est une coquille vide ». Tantôt il dit au contraire « Nous tenons à cet accord et il faut que la France nous accorde, a-t-il dit au Figaro, 132 années de visa parce qu'il y a eu 132 années de colonisation française. Donc on voit que c'est parfaitement contradictoire et que cet accord n'a plus de raison d'être.
Faut-il le réformer ou complètement l'abroger ?
Moi j'ai dit qu'il fallait le dénoncer. On peut prévoir un régime dérogatoire pour l'Algérie parce que les Algériens tiennent à être séparés, distingués du Maroc, de la Tunisie, parce que effectivement, comme le rappelait Thierry, c'est un ancien département français, mais on n'a aucune raison de leur accorder des avantages comme ceux qui existent dans l'accord de 68.
Pourtant, Thierry Oberlé, certains le défendent, cet accord, et s'il n'a pas été abrogé, il y a bien des raisons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'abrogation dépend uniquement du président de la République ?
C'est-à-dire que les Algériens font une question de respect de leur souveraineté.
Oui.
C'est l'argument qu'ils avancent, parce qu'ils se rendent bien compte, évidemment, qu'ils doivent être modifiés, qu'ils doivent évoluer. Maintenant, pour partir sur de nouveaux accords, il faut être deux, et dans la situation actuelle, il n'y a aucune possibilité d'aller vers une négociation.
Cet accord, c'est la poule aux œufs d'or pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il prévoit beaucoup de dérogations au profit des Algériens, et surtout parce que pour toutes les autres nationalités, pour s'installer en France, pour s'installer, je dis bien pas pour venir, mais pour s'installer, il faut un visa de long séjour, un visa de travail, un visa étudiant, etc. Un visa de long séjour. Pour les Algériens, il suffit d'un visa de court séjour. Donc vous venez avec un visa de tourisme. Actuellement, on délivre à peu près 250 000 visas aux Algériens par an en 2024. Et avec un visa de tourisme, ensuite, vous avez toutes les dérogations dont nous parlions qui permettent aux Algériens de s'installer en France et de rester durablement en France. Donc c'est ça la grande différence. Le visa de court séjour, alors que pour les autres nationalités, c'est un visa de long séjour plus difficile à obtenir.
Et qui permet en fait beaucoup de fraudes et d'abus.
Oui. Hein. Et puis il y a des choses absolument invraisemblables. Deux me viennent en tête. Un, la kafala, qui est l'adoption en droit musulman, en droit islamique. La kafala est sanctuarisée et reconnue par l'accord franco-algérien de 1968, et c'est une source de fraude majeure, et le Conseil d'État a reconnu la kafala dans sa jurisprudence.
Qu'est-ce que c'est la kafala ?
C'est une adoption non plénière. Vous adoptez, entre guillemets, un jeune Algérien, mineur par définition, qui vient en France. Celui-ci demande un visa pour la kafala, parce qu'il est kafile, et si le consulat de France à Alger, comme ça m'est arrivé, estime que le jeune en question que vous adoptez, entre guillemets, ne remplit pas les conditions, ou n'est pas du tout mineur, mais que c'est en réalité un détournement pour l'installation en France, vous refusez, nous refusions de lui accorder un visa. Et le Conseil d'État a annulé à plusieurs reprises les décisions du consulat français à Alger en disant « Ce n'est pas l'administration française de décider si Mme Lasserre peut adopter, entre guillemets, un jeune Algérien, c'est aux Algériens de décider qui viendra en France. » Donc c'est absurde. Alors il y a la kafala, il y a aussi le fait que le juge, par exemple, on ne peut pas retirer le certificat de résidence algérien à un titulaire de ce certificat, de ce titre de séjour, sauf en cas d'urgence par le juge. Mais c'est quasiment impossible sinon. Donc voilà, c'est beaucoup d'exceptions.
Thierry Auberlé ?
Oui, après je suis pas convaincu qu'il faut corroler cette question avec d'autres questions sur la relation franco-algérienne.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le ministre de l'Intérieur, lui...
Alors lui, il fait un lien entre l'immigration et le terrorisme.
Oui.
C'est de ça dont vous parlez ?
Oui.
Mais justement, on va parler des autres irritants de la relation franco-algérienne, parce que vous disiez tout à l'heure, Thierry Auberlé, qu'il faudrait être deux pour réformer ces accords, et aujourd'hui, l'Algérie et la France ne sont plus deux. Il y a oui. Un plus un. Alors, on va aller passer en revue tous ces irritants. Il y a d'abord la reconnaissance, en juillet 2024, de la marocanité du Sahara occidental, par Emmanuel Macron, qui est considéré vraiment comme un casus belli par Alger. Et quand il arrive au pouvoir, Emmanuel Macron a vraiment fait le pari de l'Algérie. Il avait même à l'époque évoqué des crimes contre l'humanité qui étaient commis pendant la colonisation. Il entretenait une excellente relation avec le président Tebboune. Mmh. Et quelques années plus tard, il se rapproche du Maroc en désavouant les revendications algériennes sur le Sahara occidental. A-t-il eu raison? Et surtout, comment en est-on arrivé là, Thierry Auberlé?
Ben, Emmanuel Macron a essayé de faire ce que ont essayé de faire ses prédécesseurs. Il y avait un de vos homologues, Monsieur Bajolet, qui avait cette formule. Il disait.
Vos homologues.
Oui, un de mes prédécesseurs.
En tant que prédécesseur.
À Xavier Driancourt, voilà. Pas moi.
Donc, l'ambassadeur Monsieur Bajolet disait que. Qu'en fait, chaque président, dans la relation avec l'Algérie, a l'impression de réinventer la roue. Et que finalement, on en arrive toujours aux mêmes solutions envisagées et aux mêmes échecs. Et Macron, comme les autres, a tenté de se rapprocher de l'Algérie. Il avait une vision un peu de, on va dire, entrepreneuriale. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'était jouer sur l'économie, parce qu'il voyait ce marché qui est immense, qui est le marché algérien, avec ses hydrocarbures et toutes les possibilités que ça génère d'un point de vue économique. Et donc il a eu une inflexion particulière. Et puis, il s'est heurté exactement aux mêmes difficultés que ses prédécesseurs. Et ça aboutit, en fait, à une rupture brutale, parce que souvent, les relations de Macron avec ses interlocuteurs peuvent être brutales. Et il a fait un pied de nez à l'Algérie.
Avec le Sahara occidental.
Qui, quand même, représente une vraie rupture dans la position française. Parce que la France, même si elle a toujours soutenu le Maroc, a toujours essayé de maintenir un certain équilibre. Et là, on est passé à un stade différent avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. D'où la crise qui est particulièrement dure.
On reviendra sur cette crise, mais sur le Sahara occidental, Xavier Driancourt, il a eu raison de le faire, Emmanuel Macron, parce que finalement, ça arrive à un moment où les États-Unis ont fait pareil, où l'Espagne a fait pareil.
Et hier, la Grande-Bretagne.
Et la Grande-Bretagne, en avril 2025, parce que c'est le moment où nous enregistrons aujourd'hui, au niveau géopolitique, mais aussi au niveau juridique. Quelle est la vérité?
Deux remarques sur le Sahara occidental. Première remarque, pour compléter ce que disait Thierry Oberlé, le Maroc a extrêmement bien joué ou manœuvré, si je puis dire, parce que il a bien vu que le président de la République était déçu par sa relation avec l'Algérie et avec Tebboune, et dans le fond, le Maroc a dit à l'Élysée, vous voulez vous réconcilier avec nous? Bah écoutez les gars, monsieur le président, ce sera à nos conditions. Et donc vous signez là en bas à droite, reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Donc on a été pris dans une sorte de chantage qui a marché du côté marocain. Et la deuxième remarque, que aucun journaliste n'a faite à ma connaissance, seul Jean-Éric Schuttel, que vous connaissez bien, a fait cette remarque. Et il me l'a précisé il y a quelques jours au téléphone, il faut se souvenir que cette décision majeure, par les conséquences qu'elle a aujourd'hui, du 30 juillet dernier, elle a été faite par un gouvernement démissionnaire qui expédiait les affaires courantes. Et il n'y avait plus de ministre des Affaires étrangères.
C'est après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.
Il n'y avait plus de ministre des Affaires étrangères, puisque monsieur avait été nommé à Bruxelles. Et d'après Jean-Éric Schuttel, cette décision ne relève pas du pouvoir du président de la République, ni d'un gouvernement chargé des affaires courantes. Au sens juridique, expédier les affaires courantes, c'est prendre des décisions urgentes, qui ne peuvent pas attendre, et deuxièmement, des décisions qui sont la conséquence d'une décision antérieure, légale. Et là, effectivement, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, ce n'était ni une décision urgente, ni une décision qui était la suite d'une décision antérieure. Donc, juridiquement, cette décision, elle est très bancale.
Il y a un autre côté qui est
Thierry
également bancal, c'est que cette reconnaissance, bien entendu, elle a été discutée à haut niveau, avant qu'elle ait lieu au niveau de la présidence française et du côté marocain. Et à aucun moment, les Français n'ont cherché à avoir des contreparties. Alors, on demande des contreparties aux Algériens sur les questions d'immigration, mais sur le Maroc, il y a quand même aussi des problèmes qui sont liés avec tous les flux migratoires entre le Maghreb et la France. Et la France n'a absolument rien demandé. Ils ont signé comme ça en juillet. Enfin, le président a signé en juillet. Et il y a tout un travail qui n'a pas été fait. Hein. Je pense qu'au ministère de l'Intérieur français, ils le reconnaissent.
Oui, je pense que cette décision, elle a été un peu, je dis pas improvisée, mais en tout cas, elle a été mal préparée, j'estime. Si elle avait été bien préparée, je pense que dès le mois de mars 2024, le président aurait convoqué ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, en leur disant, messieurs, le 30 juillet, à l'occasion de l'anniversaire du roi, je compte reconnaître le Sahara occidental. Ça va entraîner une crise majeure avec Alger. Donc vous avez 2 mois pour préparer chacun dans votre domaine les mesures à prendre pour éviter cette crise ou pour atténuer cette crise avec Alger. Mais là, on s'est laissé, encore une fois, un peu piégé par le Maroc. On a accepté sans aucune contrepartie et on n'a pas préparé ou on a sous-estimé la réaction d'Alger.
Thierry Oberlé, oui.
Mais là, on est aussi dans les contradictions de la politique française.
Tout à fait.
C'est-à-dire que il y a un travail qui est fait au ministère des Affaires étrangères, il y a un travail qui est fait au ministère de l'Intérieur sur des questions géopolitiques qui ont des répercussions en France. Et moi, j'ai souvent le sentiment qu'il n'y a aucune coordination et que donc on est chaque fois pris au dépourvu, sans ligne directrice.
Sur le fond, le fait que la France, les États-Unis, l'Espagne, la Grande-Bretagne aient reconnu la marocanité du Sahara occidental, ce territoire qui est disputé depuis si longtemps entre Alger et Rabat, est-ce que ça éteint la rébellion du Front Polisario qui est soutenu par Alger ou pas? Est-ce que ça règle la question, Thierry Oberlé?
Ça la règle pas du tout, dans le sens où le Polisario est... comme vous l'avez souligné, soutenu par Alger, militairement, politiquement. Bien sûr, cette question de point de vue du Polisario et celui d'Alger est actuellement est véritablement en difficulté. Mais l'évolution vers la thèse marocaine des principaux États peut aussi provoquer, aiguiser en fait le conflit. Parce que les Marocains sont soutenus aussi par l'administration Trump. Il y a une coopération de plus en plus forte avec Israël. Et dans le contexte international, l'Algérie n'est pas exactement dans ce camp.
Alors, on va voir que depuis, rien ne va plus. On va écouter le Premier ministre François Bayrou le 26 février 2025. C'est une source Le Monde.
La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant un mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence, de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons que on trouve des voies pour que enfin les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Et au bout du chemin, ce sont ces accords qui seront remis en cause.
Donc, l'autre irritant, ce sont les OQTF, les citoyens sous obligation de quitter le territoire français. Alger ne collabore pas, refusant presque toujours les réadmissions. Et le 22 février 2024, l'attentat mortel au couteau commis à Mulhouse par un ressortissant algérien qui avait été 14 fois refusé par Alger a provoqué une escalade des tensions et a amené donc Bruno Retailleau à établir un lien direct entre terrorisme et immigration. Xavier Driancourt, cette réticence d'Alger à accepter la réadmission des OQTF, elle date de la décision de Macron vis-à-vis du Sahara occidental ou c'était déjà le cas avant?
Non, c'était déjà le cas avant, dans la mesure où l'immigration algérienne est la plus importante des trois pays du Maghreb. Donc statistiquement, mathématiquement, si je puis dire, le taux de reconduite ou le taux d'expulsion, puisque les deux choses ne sont pas les mêmes, est plus faible pour l'Algérie, puisque ça porte sur une population plus importante. Mais ce que je constate, comme on vient de l'entendre dans ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que rien ne s'est passé depuis le 26 février 2025. Il y a eu ce comité interministériel sur l'immigration. Le Premier ministre dit on fixe une sorte d'ultimatum de 6 semaines au gouvernement algérien pour renégocier l'accord. Et aujourd'hui, 6 semaines qui ont déjà passé, ne s'est rien produit depuis le mois de février dernier. Donc c'était un coup d'épée dans l'eau. Et on revient là à cet accord et à la relation avec l'Algérie qui est totalement bloquée.
Thierry Oberlé, sur cette question ?
Oui, pour l'instant, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a aucune raison pour que ça évolue dans les mois qui viennent, puisque les Algériens peuvent s'interroger. Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin? Mais s'ils reviennent un peu en arrière, ça ne va absolument pas débloquer la situation.
Et pourquoi ils ne reprennent pas leurs OQTF?
Parce que c'est un moyen de pression sur le gouvernement français. De même que le Maroc l'a fait vis-à-vis de l'Espagne, avec, vous vous souvenez, il y a 2 ans, les enclaves de Ceuta et Melilla au Maroc. Donc le Maroc a joué de la question migratoire vis-à-vis de l'Espagne. Et l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara occidental. L'Algérie fait la même chose à une autre échelle avec les OQTF et le refus de délivrer des laissez-passer consulaires.
Et l'Algérie a fait la même chose avec l'Espagne après la reconnaissance du Sahara occidental par...
Elle a puni l'Espagne.
Oui,
ils ont puni les Espagnols et c'était... une impasse, puisque...
Comment a-t-elle puni les Espagnols?
Par des décisions économiques. Ils ont plus joué sur la fibre économique. Que sur la fibre migratoire.
Mais ils ont refusé également de reprendre les OQTF qui étaient en Espagne. Hein.
Alors,
donc c'est la même tactique.
Il y a aussi les affaires des influenceurs. Alors il y a d'une part les influenceurs nationalistes algériens qui profèrent sur le sol français des menaces contre les opposants au régime de Tebboune. Et puis il y a aussi le cas de Amir Dezed, qui est une des bêtes noires du régime. Il a été victime d'une tentative d'enlèvement et la France a arrêté les responsables présumés, qui étaient des citoyens algériens ou grandes dames d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces histoires d'influenceurs qui sont assez compliquées, Xavier Driancourt?
Je ne connais pas particulièrement ces influenceurs, mais je constate qu'il y a une différence majeure entre Bouteflika et Tebboune, c'est que Tebboune veut utiliser, instrumentaliser, structurer la communauté algérienne en France. Alors que Bouteflika, dans le fond, ça l'intéressait moyennement et savait que c'était une communauté plutôt hostile à son régime. Tebboune a compris que le modèle turc de Erdogan, c'est le bon modèle pour lui, c'est-à-dire utiliser cette diaspora algérienne en France pour enquiquiner au quotidien le gouvernement français. Et donc ça, c'est une différence majeure. Et alors, ces influenceurs sont effectivement une des pièces de ce dossier. Et c'est pour cela qu'il a essayé d'enlever Amir DZ, comme il s'appelle, et un agent du consulat algérien de Créteil a été pris dans cette affaire. Donc c'est très grave. Ce sont des opérations de barbouzerie opérées sur le territoire français.
Thierry Oberlé.
Oui, et puis il y a une bataille d'influence qui est aussi liée aux questions religieuses sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on se dispute la communauté musulmane avec,
la mosquée de Paris.
Avec la Turquie. Mmh. Qui joue un rôle, avec la mosquée de Paris qui joue un rôle pour les Algériens, avec aussi la communauté marocaine, et ça se joue à coups d'influenceurs et parfois de coups tordus. Et c'est un champ d'influence.
Mais Thierry Oberlé, la
diaspora
algérienne, elle penche plutôt de quel côté? Elle est très diverse, non, la diaspora algérienne?
Elle est d'une grande diversité.
Parce qu'il y a les Kabyles,
toute la dimension kabyle aussi, qui est une immigration qui est très attachée à la France, qui est de
historiquement,
dans l'expression aussi
francophone,
culturelle, ils sont très francophones. Donc on peut pas, elle est pas monolithique. Donc et c'est vrai qu'historiquement les Algériens tenaient l'amicale des Algériens au XXe siècle, on va dire. Tout ça, ça a complètement explosé. Donc ils essayent de revenir dans le jeu à travers les moyens modernes de communication et donc en payant des influenceurs. Et chaque pays en fait maintenant a ses armées de trolls et d'influenceurs.
Et puis il y a Xavier Driancourt, la dernière crise en date, hein, c'était avec, c'est pas la dernière d'ailleurs, mais c'est celle qui se poursuit, l'arrestation de Boualem Sansal en novembre 2024, l'écrivain franco-algérien malade. Et ça s'inscrit totalement dans cette crise.
Oui, il y a l'arrestation de Boualem Sansal le 16 novembre dernier, alors que ce dernier faisait toujours des allers-retours entre Paris et Alger, sans problème depuis 10 ans. Il y a aussi le harcèlement médiatique et judiciaire vis-à-vis de Kamel Daoud. Kamel Daoud qui a obtenu le prix Goncourt pour son roman sur la guerre civile algérienne, Ouris, et qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux par l'Algérie et d'un procès en France, à Paris. Donc on voit que l'Algérie a utilisé toutes les armes à cette disposition, ses influenceurs, ses consulats, la mosquée de Paris et puis les procédures judiciaires vis-à-vis de Kamel Daoud comme vis-à-vis de Boualem Sansal à Alger.
Moi, je trouve que c'est deux affaires très intéressantes quand on regarde l'Algérie, parce qu'elles sont symptomatiques de comment ce pays a changé. C'est-à-dire que Boualem Sansal, en fait, il faut revenir, je pense, à la guerre civile algérienne, qui est gagnée militairement plutôt par l'armée et perdue par les islamistes. Et les islamistes, en fait, il va avoir une loi de concorde civile qui permet de réintégrer dans la société les islamistes et par ailleurs d'oublier tous les crimes qui ont pu être commis de chaque côté. À partir de là, en fait, il y a eu une islamisation par le bas dans la société algérienne. Et en fait, c'était d'ailleurs Tahar Jaoud, qui est un intellectuel algérien assassiné en 93, qui lui disait « l'islamiste est comme l'araignée, elle a son temps pour tisser la toile ». Et en fait, il y a eu toute cette islamisation qui a été favorisée par le pouvoir, le retour du religieux, le retour de la dimension musulmane qui maintenant surpasse pratiquement, si c'est possible, le nationalisme en Algérie. Et dans cette évolution, en fait, Boualem Sansal, lui, la guerre, en fait, elle a été gagnée par les éradicateurs. C'était les gens qui voulaient faire disparaître l'islamisme et qui n'y sont pas parvenus. Et en fait, il était plutôt dans cette tendance. C'était un haut fonctionnaire, il rentrait avec beaucoup de courage chez lui tous les soirs. Et il est un peu le dernier représentant de cette époque, et on veut plus entendre parler de cette époque. Donc, il y a aussi cette dimension, on a voulu le faire taire. Et chez Daoud, on retrouve aussi certains aspects. Il ne faut pas parler de cette époque, parce que ça va raviver, parce que surtout, ils n'ont pas réglé le problème. Mmh. Le problème aurait dû être réglé par une reconnaissance des faits et ensuite une amnistie, comme ça s'est fait au Maroc pour la répression sous Hassan II, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, la réconciliation. Et là, ça a été une loi qui, en fait, a tout effacé. Et Kamel Daoud, lui, refait revenir à la surface ce passé. Donc, ces deux gêneurs. Et qui ont en plus une audience internationale. Donc, dans un régime qui devient de plus en plus dur et de plus en plus répressif, il faut les faire taire.
Alors, on va écouter justement Emmanuel Macron, ce qu'il disait en fait de l'affaire Boualem Sansal le 27 mars 2025. C'était juste après l'annonce du verdict de son procès et la source, c'est Public Sénat.
Je veux ici dire tout mon soutien à M. Sansal, à lui et à sa famille. Et je souhaite vivement que, après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes, pour pouvoir lui redonner sa liberté et lui permettre à la fois de redevenir un homme libre et de se soigner, parce qu'il combat aussi la maladie. Et je sais pouvoir compter sur à la fois le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. En tout cas, je l'espère fortement.
Alors, ce que vous dites, Thierry Auberlé, c'est très intéressant. Et dans votre livre, Xavier Driancourt, vous dites aussi, d'une certaine manière, enfin, c'est pas la guerre civile, mais c'est l'époque de la décolonisation, mais vous dites que c'est si difficile aussi avec l'Algérie aujourd'hui, parce qu'en fait, les Français ont perdu leurs interlocuteurs de jadis. Et que les négociateurs des accords d'Évian ont été écartés au profit d'hommes politiques beaucoup plus radicaux envers la France, les Ben Bella, les Boumediene, les Bouteflika. Racontez-nous cette analyse, que c'est très intéressant.
Oui, c'est un fait qu'on oublie un peu en France. C'est-à-dire qu'il y a eu les négociations d'Évian, les accords d'Évian le 19 mars 1962. Et puis, en juillet 62, il y a eu un coup d'État à Alger. Un coup d'État qui a dégagé les négociateurs d'Évian et qui les a écartés, assassinés, exilés pour d'autres. Et au profit d'un système politique FLN-ALN, c'est l'armée des frontières, l'armée de l'extérieur qui était au Maroc et en Tunisie, qui prend le pouvoir, qui ne s'était pas battu sur le sol algérien, mais qui prend le pouvoir et qui revient en Algérie à l'été 62 et qui écarte tous les négociateurs des accords d'Évian. Donc on a depuis 1962 en face de nous des gens qui sont les héritiers de ce système qui a pris le pouvoir en 62 et qui sont fondamentalement hostiles à la France.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Thierry Oberlé.
Et les accords de 68 sont aussi signés par souci de stabilité et de conserver une influence. Parce que vous avez effectivement le coup d'État de Boumédienne, avec des gens extrêmement radicalisés. Le Che Guevara, à l'époque, il se balade à Alger. L'Algérie, c'est le phare. C'est
la
le phare.
Mecque des révolutions.
Et le phare du tiers-mondisme.
Oui.
Et il y a l'influence soviétique. Et les Français font des concessions aussi parce que ils veulent
garder
un soft power, une influence en Algérie. Et après, on ne va plus jamais se départir de cette position. Je pense que, monsieur l'ambassadeur, vous êtes bien placé pour le savoir, la France a toujours joué la stabilité.
Oui, oui.
Que ce soit au moment de la guerre civile, où on redoutait des boat people qui débarqueraient à la suite d'une victoire du fils. Ensuite, ça a été vrai même au moment de... En 2001, il y a eu une répression très sanglante des Kabyles, un soulèvement en Kabylie.
Au moment des printemps
arabes également. Surtout, il fallait pas que l'Algérie bouge. De toute façon, elle ne pouvait pas bouger à cette époque. La guerre était trop prégnante encore, la guerre civile. Et puis, en 2019, l'Irak. Quand il y a la solution Tebboune qui se manifeste, ben, les Français sautent dessus et Macron saute dessus en se disant il va s'accrocher à Tebboune. Et on est toujours de côté français en se disant c'est turbulent voisin, surtout que ça ne provoque pas des problèmes. Et ça en provoque de toute façon.
Depuis 62, effectivement, nous faisons preuve de ce que j'appelle une bienveillance spontanée vis-à-vis de l'Algérie. Bienveillance qui est parfois de la tolérance, parfois de la repentance, parfois de la complaisance, mais en tout cas toujours une manifestation de soutien au pouvoir algérien, quel qu'il soit, depuis 1962. Donc c'est pas vraiment récent, ça a commencé en 62. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le contexte actuel, ça prend une ampleur incompréhensible.
Oui, mais alors Thierry Oberlé, jusque-là, il y avait toujours beaucoup de brouille, puis après des rabibochages. On a l'impression que cette crise, cette fois, elle est différente. Est-ce que c'est vrai ? Et qu'elle est plus grave.
Je suis pas sûr qu'elle soit différente, parce que, comme les autres, elle bascule dans l'aspect passionnel. Et qu'on n'en sort pas du côté algérien et du côté français, que du côté français, il va avoir des récupérations aussi politiques. Ça devient un sujet de politique intérieure et un sujet passionnel. Et du côté algérien, bon, c'est une évidence. On a cru à une époque, sous prétexte que biologiquement, les gens issus de la, ce qu'ils appellent en Algérie la révolution, auraient disparu, ça allait changer. Mais en fait, les nouveaux cadres dirigeants, ben, c'est des clones de leurs prédécesseurs. En plus, avec la dimension musulmane, qui est très imprégnée, et avec une forme d'islamisme qu'on retrouve, et on en parle très peu, dans l'armée algérienne aujourd'hui.
Oui. Xavier Tout à fait d'accord, parce que...
Là, donc, je vais vous poser la même question. Oui. Est-ce que cette crise est plus grave que les autres?
Je pense qu'elle est plus grave, parce que... Il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi l'utilisation des moyens modernes d'influence, de communication qui n'existaient pas il y a encore quelques années, ou en tout cas qui n'étaient pas maîtrisés par le pouvoir algérien. Et puis deuxièmement, c'est la première fois depuis 1962 que les deux pays, France et Algérie, procèdent à des expulsions de diplomates. C'est rare qu'en France on expulse des diplomates. La dernière fois, ça devait être au moment de l'affaire Farewell, dans les années 80, avec l'URSS de l'époque, où François Mitterrand avait décidé d'expulser 46 diplomates soviétiques. Et là, avec l'Algérie, il y a eu deux expulsions par la France de 15 diplomates du pays d'en face. Et c'est à la suite de cette déclaration du président de la République que l'Algérie a interdit à des Français qui venaient travailler à l'ambassade pour les relèves de l'été 2025 d'entrer sur le territoire algérien. Donc, il y a quand même une escalade dans la crise qu'il n'y avait pas dans les crises précédentes, me semble-t-il.
Alors, on va essayer de voir les torts des uns et des autres. Est-ce qu'on peut lister déjà, enfin, selon vous, hein, les erreurs d'Emmanuel Macron dans cette crise?
Je dirais que la première erreur, ça a commencé dès 2017 en faisant ce pari sur l'Algérie. Je pense qu'il a été influencé par un certain nombre de personnes, Benjamin Stora notamment.
Benjamin Stora, donc.
Oui.
Donc l'historien Benjamin Stora, qui était à la tête de la commission
réconciliation
nommée par Emmanuel Macron.
Qu'il a installé en 2020-2022 à la tête de cette commission. Mais je pense que la première erreur, c'est cela. C'est dès 2017 de faire le pari algérien, ce qui nous a brouillé avec le Maroc. Parce qu'il y a eu l'affaire Pegasus, il y a eu quoi? Dès 2018, la France s'est brouillée avec le roi du Maroc. Rappelez-vous, le président de la République avait dit « Mais non, tout va bien avec le Maroc, nous avons une relation franche et amicale ». Et le roi du Maroc avait publié dans l'heure qui a suivi un communiqué disant « La relation avec la France n'est ni franche ni amicale ». Donc, on était brouillé avec le Maroc, on misait tout sur l'Algérie, et puis l'Algérie n'a jamais renvoyé l'ascenseur. Donc, c'est dès 2017 qu'il y a eu cette succession de paris sur l'Algérie et qui a échoué. Alors, les gestes dits mémoriels, je pense qu'il fallait les faire, parce qu'il y a un moment où, effectivement, on ne pouvait plus nier la réalité. Mais le problème, c'est d'avoir réduit notre relation avec l'Algérie à ces gestes mémoriels, d'un côté, et puis après, aux questions de visa et d'immigration. Donc, nous sommes enfermés dans ce piège, dans ce double piège avec l'Algérie.
Thierry Oberlé, votre analyse sur la politique française, la politique algérienne de Macron depuis son arrivée au pouvoir?
Les résultats sont pas très brillants, quoi.
D'accord. Mais vous pensez aussi, comme Xavier Driancourt, qu'en fait, l'erreur initiale a été de miser sur les questions mémorielles. Et
non,
en fait,
mais
c'est pas possible avec le régime algérien, c'est ça, aujourd'hui?
Tous les présidents français ont essayé de le faire. Macron a essayé aussi à sa manière. Il fallait évidemment, à mon sens, commencer par les questions mémorielles, parce que elles marquent la France comme l'Algérie. On est quand même plus de 63 ans après les accords d'Évian. On pensait aussi que ces mémoires à vivre du côté français, ça allait s'apaiser avec le temps. Et avec la disparition de la génération de pieds noirs, et on voit que non, que ça reste un sujet qui touche énormément de gens. C'est extraordinaire le nombre de Français qui ont une histoire commune avec ce pays, et avec souvent énormément de malentendus, d'interprétations, et du côté algérien. De la même manière qu'on n'a pas voulu, qu'on veut mettre le couvercle sur ce qui s'est passé pendant la guerre civile, on veut mettre le couvercle sur ce qui s'est passé du côté de la résistance algérienne pendant la guerre d'indépendance. Il y a eu des massacres à l'intérieur même du soulèvement. Les mémoires ne veulent toujours pas se mettre à nu 60 ans après. Et en France aussi, on a des résistances. Enfin, je le pense profondément. Et je pense que les historiens doivent jouer leur rôle, mais que leur rôle n'est pas non plus de faire de la diplomatie.
Xavier Driancourt, vous pensez aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de réchauffement des relations avec ce régime algérien?
Je finis par me le dire. Pour avoir été presque 8 ans ambassadeur en Algérie, je pensais qu'il y avait des accommodements possibles pour des raisons formelles, historiques, compte tenu de la population algérienne en France, compte tenu de notre histoire avec l'Algérie. Mais je vois que tout ceci nous a menés dans une impasse, dans le fond. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec ce régime algérien, nous n'avons rien construit depuis 8 ans. Rien. En 2017, c'était encore Bouteflika, un Bouteflika malade. Il y a eu l'année du Hirak. Il y a eu ensuite Tebboune, et Macron, le président de la République, a peut-être misé sur le président Tebboune, se disant ou se laissant convaincre qu'il serait un démocrate. Et en réalité, c'est un régime bien plus répressif que sous Bouteflika. Donc, voilà, c'est désespérant d'avoir ces gens-là comme interlocuteurs.
Alors Thierry Oberlé, est-ce qu'il faut changer de stratégie et assumer un bras de fer, assumer un rapport de force vis-à-vis du régime algérien?
Il faut d'abord, je pense, dépassionner, mais visiblement, c'est pas...
Comment on fait pour dépassionner?
C'est pas envisageable. Mais justement, j'aimerais bien savoir parce que, par exemple, du côté algérien, il y a un rapport à la France qui relève de la psychanalyse, je pense. Mmh. La relation à la mère indigne. Moi, je vous avoue que ça me dépasse. Il faudrait se plonger dans la psyché algérienne. Et moi, je vois pas comment on peut en sortir alors qu'on est 60, oui. 60 ans après. Je vois pas.
D'accord.
Xavier Driancourt, vous prenez dans votre livre qu'il faut changer de stratégie et assumer le bras de fer. Ça passe par quelle mesure?
Je pense qu'il faut arrêter cette bienveillance que nous avons depuis longtemps vis-à-vis de l'Algérie. Il faut dire, écoutez, les gars, vous êtes indépendants depuis 63 ans, donc les problèmes de l'Algérie actuelle, ce n'est pas la responsabilité de la France. Hein. 63 ans, vous avez eu le temps de construire votre pays, donc le discours anti-français est quand même le carburant principal de ce régime algérien. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. La France est partie en 1962. Les Algériens ont ensuite choisi leur voie de développement, une voie un peu absurde, le socialisme soviétique dans les années 60 et 70. Ils n'ont pas d'excuses pour ne pas avoir obtenu de résultats. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le baril de pétrole est à 50 $, 60 $ le baril de pétrole.
Donc il est bas.
Et donc ça va générer des tensions internes, des tensions économiques et sociales en Algérie, parce que jusqu'à présent, ce pouvoir distribuait l'argent de la rente pétrolière, distribuait l'argent du discours anti-français, mais aujourd'hui il n'aura plus l'argent de la rente pétrolière, il ne va lui rester que le discours anti-français. Et donc c'est très grave.
Mais est-ce qu'on a d'autres leviers?
Mais nous avons des leviers qui sont... Alors, je reviens pas sur cet accord de 68, qui est le point de départ de notre conversation, mais un truc tout bête que j'ai moi-même dit au ministre de l'Intérieur. Mais les Algériens à Alger imposent à tous les diplomates français de demander une autorisation pour sortir d'Alger, d'Oran ou d'Annaba. 8 jours à l'avance, il faut demander une autorisation. Pour aller vous baigner à la plage, il faut une autorisation du ministère des Affaires étrangères pour vous rendre à la plage. Et pendant 8 ans, j'ai subi ce régime. Mais les 20 consulats algériens, l'ambassade d'Algérie à Paris, on pourrait dire, bah écoutez, vous demandez une autorisation pour sortir de Paris 8 jours à l'avance, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas. Mais ça, c'est de la réciprocité bien comprise. Mais encore une fois, nous n'avons pas cessé de faire preuve de bienveillance vis-à-vis d'Alger.
Thierry Oberlé, on a d'autres leviers pour essayer d'influencer le régime ou...
Moi, je ne vois pas lesquels, parce que s'il y a un durcissement des positions françaises vis-à-vis de l'Algérie, le régime algérien sait très bien comment jouer sur les cordes sensibles de la population. C'est une population qui, profondément, a une préférence pour la France, mais qui va pas le dire. Et qui va sentir toutes les mesures prises parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, qui va sentir des décisions qui seraient prises comme des humiliations. Donc on n'en sort pas.
Donc on n'en sort pas.
Ok. Donc
conclusion terrible.
Encore à la conclusion. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ce qui se passe au sein du pouvoir algérien. Est-ce que c'est Tebboune le plus radical? Est-ce qu'il y a différentes lignes vis-à-vis de ce sentiment anti-français dans l'appareil d'État, entre l'armée, entre les services de renseignement, entre la présidence? Tout le monde n'est pas sur la même ligne, Xavier Driancourt.
Il y a évidemment plusieurs lignes et plusieurs clans ou plusieurs groupes à l'intérieur du système algérien qui est, il faut le rappeler, une véritable boîte noire. Moi, je disais toujours, l'Algérie, c'est la Corée du Nord, mais c'est une Corée du Nord à 800 km de Marseille. C'est ça la grande différence.
Sans la bombe nucléaire.
Et sans la bombe nucléaire, mais avec d'autres petites bombes, comme nous l'avons vu. Il se peut très bien aussi que cette crise, ce bras de fer, qui, encore une fois, n'est pas à l'avantage de l'Algérie sur le long terme, parce que c'est l'Algérie qui sera perdante sur le long terme. Sur le court terme, c'est nous qui sommes pénalisés par les OQTF, etc., tout ce que l'on a évoqué. Mais sur le long terme, c'est l'Algérie, surtout dans la situation économique actuelle, qui sera pénalisée. Il se peut qu'à l'intérieur de cette boîte noire, il y ait des gens qui disent à Tebboune, écoute, cher ami, t'es bien sympa, mais ta diplomatie, tu nous as menés dans le mur. On est brouillé avec le
Maroc, on est brouillé avec la France, on est brouillé avec le Mali, on a été mis à la porte du Mali et du Niger, on est brouillé avec la Libye, et depuis 15 jours, ils sont brouillés avec les Émirats Arabes Unis. Et avec
L'Algérie, c'est l'opposé de la Turquie, ils n'ont plus d'amis,
oui,
alors
plus
que
d'amis.
La Turquie n'a plus que des amis.
Et avec la Russie, les relations ne sont pas terribles, puisque Tebboune n'a même pas été invité le 9 mai sur la place Rouge à Moscou. Donc, il se peut qu'il y ait des gens à l'intérieur de cette boîte noire algérienne qui viennent dire à Tebboune, bah, écoute, il est peut-être temps que tu ailles faire autre chose.
Thierry Houberlet, est-ce que vous croyez à la possibilité d'une nouvelle rébellion démocratique en Algérie après l'échec du Irak entre 2019 et 2021?
Ça me paraît extrêmement difficile. Ouais. Parce que même au moment du Irak, le Irak a aussi échoué parce que la société civile qui était très très forte dans les années 90 a disparu. Elle a été réprimée. Elle est justement très éradicatrice et ses représentants ont été mis à l'écart. Et puis il y a une fragmentation. Il y avait des divisions extraordinaires. Il n'y avait pas de chef. C'était un joyeux foutoir en fait ce Irak. Et en même temps, il représentait un véritable espoir, parce que les gens en Algérie rêvent d'une vie meilleure. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice, de révolte qui est toujours en eux, mais qui ne trouve aucun terrain pour s'exprimer. Et le système est devenu de plus en plus répressif. Et il ne peut pas avoir non plus de pression internationale, parce que bon, les Algériens vont dire « bah oui, on est une autocratie ou une dictature, mais regardez ailleurs dans le monde, c'est pareil ». Je sens pas de mouvement qui pourrait venir. S'il peut venir, ça sera pas forcément un vent très bon qui soufflera.
C'est votre avis aussi, Xavier Driancourt?
Un nouveau Irak est exclu, en tout cas à court terme, parce que le régime a eu tellement peur en 2019-2020. Il a été sauvé par le Covid. Le régime a eu tellement peur qu'il est décidé à ce que plus jamais cette révolution populaire, démocratique et joyeux foutoir, comme vous le disiez, se reproduise. Et donc, ils prendront toutes les mesures, y compris les plus répressives, pour empêcher que le Irak se reproduise.
Décidément, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui sur ce sujet. Xavier Driancourt, est-ce que vous pensez que la France devrait ou pourrait faire plus pour obtenir la libération de Boualem Sansal?
Ben oui, pour l'instant, les ponts sont coupés. Et puis, je pense que les Algériens, encore une fois, ont compris qu'ils pouvaient, dans cette relation, tirer sur la corde et que jamais elle ne casserait du côté français. Donc, il y a un moment où il faut en tirer les conséquences.
Thierry Houberlet.
Il y a quand même, dans le régime algérien, un certain nombre d'interlocuteurs, de personnes qui considèrent que l'Algérie est allée trop loin sur cette affaire.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à l'intérieur
dans quelle partie?
Système.
Dans le système.
Oui, mais
dans
le système, le régime, l'armée, les services, on ne sait pas.
Si, on sait.
Donc, regardez la nomination.
C'est dans les dirigeants.
La nomination
dans les dirigeants,
du nouveau DGSI algérien.
Donc le directeur général de la sécurité intérieure.
Est-ce qu'il a été nommé librement par le président algérien? Est-ce que quelqu'un lui a imposé? Est-ce que il sortait de prison? Il a fait 5 ans de prison et il est nommé directeur général de la sécurité intérieure. Donc s'il avait fait 5 ans de prison, 5 ans, c'est depuis l'élection de Tebboune, c'est que c'était pas un proche de Tebboune. Donc voilà, ce pouvoir est indéchiffrable.
Pour moi, c'est pas une boîte noire, c'est plus un disque dur. Et on est en permanence à la recherche d'un décodeur pour le lire.
Ouais.
Mais quand on le trouve, les résultats sont en général assez décevants.
Mais alors, il y a aussi quelque chose qui bloque, qui est super compliqué en France, c'est que, en fait, l'Algérie est au cœur de tous les courants politiques. C'est-à-dire que c'est un objet de politique intérieure permanent. Quelle marge de manœuvre ça laisse à un pouvoir, à un gouvernement pour agir, Xavier Driancourt?
C'est la très grande difficulté de ce dossier, c'est que c'est à la fois de la politique étrangère, sur laquelle on pourrait avoir une ligne bien précise, mais c'est en même temps de la politique intérieure française, parce qu'il y a à peu près 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. Et dans ces 10%, vous avez des pieds noirs et leurs descendants, vous avez une population algérienne parfaitement intégrée en France, et vous avez une population algérienne ou française, d'origine algérienne, qui ne cherche qu'à foutre le bazar. Donc, Voilà, c'est très difficile de mélanger politique étrangère et politique intérieure, et on est au cœur des contradictions de notre politique.
Thierry Oberlet, c'est la même chose à Alger, où la politique française de l'Algérie est au cœur de tout. En fait, la politique intérieure et étrangère se mélangent aussi à Alger, comme elles se mélangent à Paris, non ?
Oui, souvent les Algériens ont une meilleure connaissance que nous des subtilités du monde politicien français. Et c'est d'ailleurs une arme, en fait c'est vrai pour tout le Maghreb, mais c'est souvent d'ailleurs une arme dont ils usent et abusent, parce qu'ils connaissent les divisions françaises et ils savent très bien jouer dessus.
Ils regardent toutes les télés.
Nous sommes une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente. Quand le président algérien a dit, pour refuser les OQTF, mais il faut que les Algériens concernés aient utilisé toutes les voies de droit, y compris jusqu'au Conseil de l'Europe, quand on voit la façon dont eux, Algériens, traitent les migrants subsahariens qu'ils vont reconduire de force dans le désert au Niger, au-delà de la frontière algérienne, on se dit que quand même, nous sommes une société extrêmement ouverte et c'est ça notre faiblesse.
On est d'autant plus vulnérable qu'on ne connaît pas la société algérienne. On ne la connaît pas. On s'imagine que l'Algérie, c'est les gens d'origine algérienne qui vivent en France, mais un Algérien vivant en France, ça n'a rien à voir avec un Algérien qui a toujours vécu en Algérie. C'est pas
avec
du tout
Algérien
la même personne.
Avec un Algérien d'Alger et un Algérien de Tamanrasset.
Et ce pays, on ne le connaît pas, en fait. Qui le connaît, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'échange. C'est un peu une terre inconnue.
Xavier Driancourt, on va terminer comme on a commencé avec les accords de 1968. Ils ont été au cœur de l'actualité franco-algérienne pendant tout le printemps 2025. Puis pouf, on n'en a plus parlé, ils sont devenus invisibles. Ils vont revenir sur le terrain politique ou c'était juste un soufflet ?
Je pense qu'ils vont, d'une façon ou d'une autre, rester sur la table, si je puis dire, jusqu'en 2027.
Pourquoi ?
Parce que tout le monde a bien vu que la question migratoire algérienne est particulièrement sensible et est au cœur de la relation avec l'Algérie. Et donc, plus nous approcherons des élections présidentielles de 2027, plus cette question de l'accord franco-algérien du 27 décembre 68 sera importante.
L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré aux accords entre la France et l'Algérie de 1968. Merci beaucoup Xavier Driancourt et merci beaucoup Thierry Oberlet. C'était les grands accords internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Laure-Hélène Planchet avec à la technique aujourd'hui Élise Leu, attachée de production Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr. Belle écoute sur France Culture.